Chapitre 29. Le rêve.
Il n'y a que deux possibilités, dit Hermione en se frottant le front. Ou bien c'est M. Croupton qui a attaqué Victor, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui les a attaqués tous les deux pendant que Victor regardait d'ailleurs.
C'est sûrement Croupton, affirma Ron. C'est pour ça qu'il n'était plus là quand Harry et Dumbledore sont arrivés. Il avait déjà fichu le camp.
Je ne crois pas, dit Harry. Il avait l'air très faible. « Je ne pense pas qu'il ait été en état de transplaner ou de faire quoi que ce soit. »«
On ne peut pas transplaner dans l'enceinte de Poudlard. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète ?» soupira Hermione.
« Attends, j'ai une autre idée !» s'exclama Ron d'un air enthousiaste.
« C'est Chrome qui a attaqué Croupton. Laisse-moi finir. » Et ensuite, il s'est stupéfixé lui-même.
« Oui, et M. Croupton s'est volatilisé, c'est ça ?» répliqua froidement Hermione.
« Ouais, bon... »
C'était l'aube, Harry, Ron et Hermione étaient sortis de leur dortoir de très bonne heure et s'étaient hâtés de monter à la volière pour envoyer un mot à Sirius. Accoudés à une fenêtre, ils contemplaient le parc envahi de brume. Tout droit avait passé une bonne partie de la nuit à parler de M. Croupton, ce qui expliquait leurs yeux gonflés et leur teint pâle.
« Répète-nous ça encore une fois, Harry, » demanda Hermione. « Qu'est-ce qu'a dit Croupton exactement ?»
Ça n'avait pas beaucoup de sens. Il disait qu'il voulait avertir Dumbledore de quelque chose. Il parlait de Bertha Jorkins comme si elle était morte. Il n'arrêtait pas de répéter que c'était sa faute.
Il parlait aussi de son fils.
Ça, c'était vraiment sa faute, dit Hermione avec colère.
Il avait perdu l'esprit, poursuivit Harry. La moitié du temps, il semblait penser que sa femme et son fils étaient toujours vivants. Et il s'adressait à Percy pour lui parler travail et lui donner des instructions.
« Rappelle-moi ce qu'il a dit à propos de tu sais qui. »
demanda Ron d'une voix mal assurée.
« Je te l'ai déjà répété. Il a dit qu'il devenait plus puissant. »
Il y eut un silence.
Puis d'un ton faussement assuré, Ron reprit.
« Il devait délirer puisque tu nous dis qu'il avait perdu l'esprit. Il paraissait plus lucide quand il parlait de Voldemort. »
fit remarquer Harry sans prêter attention à la grimace de Ron. Il avait du mal à aligner deux mots, mais c'était les seuls moments où il avait l'air de savoir où il se trouvait et ce qu'il voulait faire. Il répétait sans cesse qu'il devait absolument voir Dumbledore.
Harry se détourna de la fenêtre et leva les yeux vers la charpente. La moitié des nombreux perchoirs étaient vides. De temps à autre, un hibou s'engouffrait dans la volière, revenant de sa nuit de chasse avec une souris dans le bec.
« Si Rogg ne m'avait pas retenu, » dit Harry d'un ton amer, « on aurait peut-être pu arriver à temps. » Le directeur est occupé, Potter. Qu'est-ce que vous vous racontez encore comme bêtise, Potter? Ah, si seulement il m'avait laissé passer.
Peut-être qu'il ne voulait pas que tu voies Dumbledore, dit précipitamment Ron. Peut-être que...
Attends. À ton avis, combien de temps il lui aurait fallu pour aller jusqu'à la forêt? Tu crois qu'il aurait pu arriver là-bas avant vous?
Non.
À moins de se transformer en chauve-souris, répondit Harry.
Ça ne m'étonnerait pas de lui, marmonna Ron. « Nous devons voir le professeur Maugret, » dit Hermione. « Il faut savoir s'il a retrouvé Croupton. »« S'il avait la carte du maraudeur sur lui, il n'a pas dû avoir trop de mal, » dit Harry. « Sauf si Croupton n'était plus dans l'enceinte de Poudlard, » dit Ron. « La carte ne va pas plus loin que... » »«
Chut, dit soudain Hermione. Quelqu'un montait les marches de la volière. Harry entendit deux voix qui se disputaient.
« Ça s'appelle du chantage et on pourrait s'attirer de sacrés ennuis avec ça. Bon, on a essayé d'être poli. Maintenant, on va être beaucoup plus méchant, comme lui. Il aimerait sûrement pas que le ministère de la magie soit au courant de ce qu'il a fait. Je te dis que si tu mets ça par écrit, c'est du chantage. Peut-être. Mais tu te plaindras pas si on ramasse un joli paquet, non ?»
La porte de la volière s'ouvrit avec un grand bruit. Fred et George franchirent le seuil et se figèrent sur place en voyant Harry, Ron et Hermione.
« Qu'est-ce que vous faites ici ?»
demandèrent Ron et Fred d'une même voix.
« On envoie une lettre, » répondirent Harry et George à l'unisson.
« Quoi ? À cette heure-ci » s'exclamèrent ensemble Hermione et Fred.
Fred eut un sourire. « Très bien, on ne vous demandera pas ce que vous faites si vous non plus. Vous ne nous posez pas de questions, » dit-il. Il avait à la main une enveloppe cachetée. Harry y jeta un coup d'œil, mais volontairement ou pas, Fred fit un mouvement qui lui cachait l'adresse.
« On ne veut surtout pas vous retenir, » dit-il en s'inclinant avec une politesse feinte, le doigt pointé sur la porte. Ron ne bougea pas. « À qui vous faites du chantage ?» demanda-t-il. Le sourire de Fred s'effaça. Harry vit George lui jeter un coup d'œil à peine perceptible avant d'adresser un sourire à Ron. « Ne sois pas idiot, c'était une blague, » dit-il d'un air dégagé. « Ça n'avait pas l'air, »
répliqua Ron. Fred et George échangèrent un regard.
« Je te l'ai déjà dit, Ron, » reprit soudain Fred. « Arrête de mettre ton nez partout si tu veux qu'il reste entier. Remarque, ce ne serait pas plus mal d'en enlever un bout, hein, mais... »«
Ça me regarde si vous faites du chantage à quelqu'un, » interrompit Ron. « George a raison. Vous pourriez avoir de sacrés ennuis. »«
Je t'ai dit que c'était une blague, »
répéta George. Il prit la lettre des mains de Fred et l'attacha à la patte de la chouette la plus proche. « Ron, » ajouta-t-il, « tu commences à parler comme ton frère aîné. Continue comme ça et tu finiras préfet. »«
Certainement pas. »
George emmena la chouette près de la fenêtre et la lança au dehors. Puis il se tourna vers Ron et lui sourit à nouveau.
« Alors arrête de te mêler de ce que font les autres.
À plus tard. » Suivi de Fred, il sortit de la volière. Harry, Ron et Hermione échangèrent un regard.
« Tu ne crois pas qu'ils sont au courant de quelque chose ?» murmura Hermione.
« À propos de l'histoire Coupeton ?»«
Non, 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 » répondit Harry.
Si c'était aussi grave, ils en parleraient à Dumbledore. Mais Ron paraissait mal à l'aise.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demanda Hermione.
« C'est pas fille... fille très capable de... » dit Ron. « Ils sont tellement obsédés par l'argent ces temps-ci que... Je l'ai remarqué, j'étais souvent avec eux au moment où
on ne se parlait plus, » acheva Harry.
« D'accord, mais ils n'iraient quand même pas jusqu'au chantage. »
« C'est à cause de leur projet de boutique de farce et attrape, »
poursuivit Ron. « Je croyais qu'ils disaient ça uniquement pour faire enrager ma mère, mais ils ont vraiment l'intention de le faire.
Ils n'ont plus qu'un an à passer à Poudlard. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il est temps de penser à leur avenir, et comme papa ne peut pas les aider, ils ont besoin d'or pour ouvrir leur boutique. »
Ce fut au tour d'Hermione d'avoir l'air mal à l'aise.
« Il ne ferait quand même pas quelque chose d'illégal pour avoir de l'or, non ?»«
Tu crois ?» dit Ron sceptique.
« Je ne sais pas. Ils n'ont jamais beaucoup respecté les règlements. »«
Oui, mais là, il s'agit de la loi, »
fit remarquer Hermione, l'air effaré. « Ça n'a rien à voir avec les stupides petits règlements de l'école. Le chantage, ça leur coûterait beaucoup plus cher qu'une simple retenue. Ron, tu ferais peut-être bien en parler à Percy. »«
Tu es folle, en parler à Percy. Il serait bien capable de vouloir jouer les petits croupetons et d'aller immédiatement les dénoncer. »
Ron regarda la fenêtre par laquelle la chouette de Fred et de George s'était envolée. Puis il ajouta...
« Venez, on va prendre un petit déjeuner. »« Tu crois qu'il est trop tôt pour aller voir le professeur Maugrey ?»
dit Hermione tandis qu'il descendait l'escalier en colimaçon.
« Oui, » répondit Harry. « Il nous jetterait sans doute un sort à travers la porte si on le réveillait à l'aube. Il penserait que quelqu'un essaie de l'attaquer dans son sommeil. Attendons la récréation. »
Le cours d'histoire de la magie avait rarement semblé si long. Harry, qui avait fini par jeter sa montre, regardait sans cesse celle de Ron. Mais les aiguilles avançaient avec une telle lenteur qu'elle avait l'air cassée, elle aussi. Toutes trois étaient si fatiguées qu'ils se seraient volontiers endormis sur leur table. Contrairement à son habitude, Hermione, elle-même, avait renoncé à prendre des notes. La tête dans les mains, elle regardait le professeur Binns d'un œil vitreux.
Lorsque la cloche retentit enfin, ils se précipitèrent dans le couloir, coururent vers la classe de défense contre les forces du mal et aperçurent le professeur Maugrey qui en sortait.
« Professeur Maugrey !»
s'écria Harry en se frayant un chemin parmi la foule des élèves pour le rejoindre.
« Bonjour, Potter, » grogna Maugrey.
Il paraissait aussi fatigué qu'eux, la paupière de son œil normal tombée, donnant à son visage un aspect encore plus asymétrique qu'à l'ordinaire.
Son œil magique suivit deux élèves de première année qui hâtèrent le pas en passant devant lui l'air mal à l'aise. L'œil se retourna complètement et les regarda disparaître à l'angle du couloir, dans le dos de Maugrey.
« Venez, » dit-il enfin.
Il s'écarta pour les laisser entrer dans la classe vide et les suivit à l'intérieur en refermant la porte derrière lui.
« Vous avez retrouvé M. Croupeton ?» demanda Harry sans autre préambule.
« Non, » dit Maugrey.
Il alla s'asseoir derrière son bureau, étendit sa jambe de bois en poussant un léger grognement et tira sa flasque de sa poche.
« Vous vous êtes servi de la carte ?»
dit Harry.
« Bien sûr, »
répondit Maugrey après avoir bu une gorgée du contenu de sa flasque.
« J'ai adopté ta technique, Potter. Je l'ai fait venir de mon bureau jusqu'à la forêt avec un sortilège d'attraction. Mes croupetons ne figuraient pas dessus. »«
Donc, il a vraiment transplané, » dit Ron. « On ne peut pas transplaner dans l'enceinte de Poudlard, » répéta Hermione. « Mais il aurait pu disparaître d'une autre manière, n'est-ce pas, professeur ?»
L'œil magique de Maugrey se posa sur Hermione en frémissant.
« Toi aussi. » « Tu pourrais songer à te lancer dans la carrière d'Aurore, » lui dit-il. « Tu sais faire fonctionner tes méninges, hein, Granger ?»
Hermione rougit de plaisir.
Il n'a pas pu se rendre invisible, dit Harry. La carte montre les gens invisibles. Il a dû sortir du parc. La question est de savoir s'il en est sorti tout seul ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'en a fait sortir, fit remarquer Hermione.
Oui, c'est vrai. Quelqu'un aurait pu le mettre sur un balai et s'envoler avec lui, non ?
Suggéra Ron en regardant Maugrey avec espoir, comme si lui aussi avait envie de s'entendre dire qu'il pourrait faire un bon aurore.
« On ne peut pas exclure un enlèvement, en effet, » grogna Maugrey.
« Alors, vous croyez qu'il se trouve quelque part après Aulard ?» dit Ron.
« Il pourrait être n'importe où, »
répondit Maugrey en hochant la tête.
« La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'elle n'est pas ici. »
Il bâilla longuement. Ses cicatrices s'étirèrent et sa bouche largement ouverte révéla plusieurs dents manquantes.
« D'après ce que m'a dit Dumbledore, il paraît que vous aimez bien jouer les détectives tous les trois, mais vous ne pourrez rien faire pour Croupton. C'est aux gens du ministère de les chercher. Dumbledore les a prévenus. Poder, il vaut mieux que tu te concentres sur la troisième tâche. Hmm? »
Quoi ? Dit Harry. Ah oui, 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 oui. Il n'avait pas pensé une seule fois au labyrinthe depuis qu'il avait quitté Krum la nuit précédente.
« Tu ne devrais pas avoir trop de mal avec celle-là, »
dit Maugrey en grattant son menton couturé et mal rasé.
« Si j'en crois dans mon lore, tu as souvent réussi à te sortir de ce genre de choses. Il paraît que tu t'es débrouillé pour franchir tous les obstacles qui gardaient la pierre philosophale. Dès ta première année ici. Hein? »
« On l'a aidé, » dit aussitôt Ron. « Hermione et moi, on l'a aidé. » Maugrey eut un sourire.
« Eh bien, aidez-le encore à s'entraîner cette fois-ci. Et ça m'étonnerait qu'il ne sorte pas vainqueur. En attendant, vigilance constante, Potter, vigilance constante. »
Il but à nouveau une longue gorgée au goulot de sa flasque et son œil magique pivota vers la fenêtre. On apercevait une partie des voiles du vaisseau de Durmstrang.
« Vous deux !»
Son œil normal s'était posé sur Ron et Hermione.
« Vous restez auprès de Potter, d'accord ? J'ouvre l'œil, mais on ne sait jamais. Des yeux, il n'y en a jamais assez pour tout surveiller. »
Sirius leur renvoya leur hibou le lendemain matin. Il voltait vers Harry au moment même où une chouette hulotte atterrissait devant Hermione en tenant dans son bec un exemplaire de la Gazette du Sorcier. Hermione prit le journal, parcourut les premières pages.
« Ah, elle n'a pas entendu parler de Croupton !» dit Hermione.
Puis se joignit à Ron et à Harry pour lire ce que Sirius avait à dire des mystérieux événements de l'avant-veille. « Harry, qu'est-ce que c'est que ces histoires de te promener dans la forêt avec Krum ? À quoi joues-tu ? Je veux que tu me promettes, par retour du hibou, que tu ne sortiras plus dans le parc avec qui que ce soit la nuit. Il y a quelqu'un d'extrêmement dangereux à Poudlard. Quelqu'un qui voulait empêcher Croupton de voir Dumbledore, et tu n'étais sans doute qu'à quelques mètres de lui. Tu aurais pu te faire tuer. Ton nom n'a pas été déposé dans la coupe de feu par hasard. Si quelqu'un a l'intention de te tuer, c'est maintenant ou jamais qu'il agira. Reste toujours près de Ron et d'Hermione. Ne quitte pas la tour de Gryffondor la nuit et prépare-toi très sérieusement à la troisième tâche. Entraîne-toi au sortilège de stupéfaction et de désarmement. Tu ferais bien d'apprendre également quelques maléfices supplémentaires. En ce qui concerne Croupton, tu ne peux rien faire pour lui. Adopte un profil bas et prends bien soin de toi. J'attends la lettre dans laquelle tu me promettras de ne plus sortir dans le parc la nuit. Sirius. Il est bien placé pour me donner des leçons sur les promenades dans le parc, dit Harry vaguement indigné en glissant la lettre de Sirius dans sa poche. Après tout ce qu'il a fait quand il était élève ici, il s'inquiète pour toi, dit Hermione d'un ton brusque. Tout comme Maugrey et Hagrid. Alors écoute-les. Personne n'a essayé de m'attaquer cette année, répliqua Harry. Personne ne m'a rien fait. À part mettre ton nom dans la coupe de feu, dit Hermione. Et c'était pas par hasard. Sniffle a raison. Celui qui a fait ça attend peut-être son heure. C'est peut-être pendant la prochaine tâche qu'il s'attaquera à toi. Écoute, dit Harry d'un ton impatient. Admettons que Sniffle ait raison et que quelqu'un ait stupéfixié Krum pour enlever Croupton. Ça signifie qu'il était caché dans les arbres, tout près de nous, non? Mais il a attendu que je sois parti pour agir. Donc, apparemment, c'était pas à moi qu'il en avait. Il aurait eu du mal à faire passer ça pour un accident s'il t'avait tué dans la forêt, fit remarquer Hermione. Et si tu meurs pendant une tâche, il n'a pas hésité à attaquer Krum, dit Harry. Pourquoi ne m'aurait-il pas supprimé en même temps? Il aurait pu faire croire que Krum et moi, on s'était battus en duel, par exemple. Harry, je ne comprends pas plus que toi, fit Hermione d'un air désemparé. Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe beaucoup de choses bizarres et je n'aime pas du tout ça. Maugrey a raison, Sniffle a raison. Il faut que tu t'entraînes dès maintenant pour la troisième tâche. Et tu dois tout de suite écrire à Sniffle pour lui promettre que tu n'iras plus te promener dehors tout seul. Là. Le parc de Poudlard ne paraissait jamais aussi attirant à Harry que lorsqu'il était obligé de rester à l'intérieur du château. Pendant les jours qui suivirent, il partagea son temps libre entre la bibliothèque, où il étudiait les maléfices avec Ron et Hermione, et des salles de classe vides qui leur servaient à s'exercer. Harry se concentrait particulièrement sur le sortilège de stupéfaction qu'il n'avait jamais encore pratiqué. Ces séances d'entraînement obligeaient Ron et Hermione à consentir certains sacrifices. « Tu crois pas qu'on pourrait kidnapper Mitaigne ?» suggéra Ron, étalé sur le dos dans la classe d'enchantement après avoir été stupéfixé puis ranimé par Harry 5 fois de suite. « Si on la prenait comme cobaye pour changer un peu, ou alors peut-être que tu pourrais demander à Dobby. Je suis sûr qu'il serait prêt à faire n'importe quoi pour t'aider. » « Ce n'est pas que je me plaigne, mais j'ai mal partout. » Il se releva avec précaution en se massant le dos. « C'est parce que tu tombes toujours à côté des coussins !» dit Hermione d'un air agacé. Elle entassa à nouveau sur le sol les coussins dont s'était servi le professeur Flitwick pour le cours sur le sortilège d'expulsion.
« Essaie de tomber en arrière. Quand on est stupéfixé, c'est pas facile de viser !» répliqua Ron avec colère. « Pourquoi tu ne prends pas ma place pour changer ?»« De toute façon, je crois que Harry sait très bien le faire maintenant. » dit précipitamment Hermione. « Pour le sortilège de désarmement, pas besoin de s'inquiéter. Il y a longtemps qu'il le maîtrise parfaitement. Mais il serait peut-être temps de pratiquer quelques maléfices à partir de ce soir. »
Elle consulta la liste qu'ils avaient faite à la bibliothèque. « Celui-ci me paraît bien, dit-elle. Le maléfice d'entrave. Il ralentit tout ce qui essaie de t'attaquer. On va commencer par ça. » La cloche sonna pour annoncer la reprise des cours de l'après-midi. Ils se hâtèrent de ranger les coussins dans l'armoire de Flitwick et sortirent discrètement de la classe.
« On se retrouve au dîner !» dit Hermione qui partit vers son cours d'arithmancie, tandis que Harry et Ron prenaient le chemin de la tour nord où les attendait le professeur de divination.
Les flots de lumière qui se déversaient par les hautes fenêtres illuminaient les couloirs et le bleu du ciel brillait comme de l'émail.
« On va étouffer dans la classe de Trelawney. Elle éteint jamais ce fichu feu !»
Ron avait raison, il régnait une chaleur suffocante dans la pièce faiblement éclairée. Les vapeurs qui s'échappaient des flammes parfumées étaient plus entêtantes que jamais. Harry avait le tournis lorsqu'il traversa la salle pour aller s'installer près d'une fenêtre masquée par des rideaux. Pendant que le professeur Trelawney était occupé à décrocher son châle d'une lampe, il entr'ouvrit la fenêtre de quelques centimètres et s'installa dans son fauteuil recouvert de chintz. Une faible brise vint alors lui rafraîchir le visage. Il avait au moins réussi à trouver une position confortable. Le professeur Trelawney prit place dans un grand fauteuil et regarda longuement ses élèves, les yeux étrangement agrandis.
« Mes chéris, dit-elle. Nous avons presque fini notre travail sur les prévisions astrologiques et aujourd'hui, nous avons toutefois une excellente occasion d'examiner l'influence de Mars, étant donné sa position particulièrement intéressante en cette période. Si vous voulez bien regarder dans cette direction pendant que j'éteins les lampes. »
Elle agita sa baguette magique et les lampes s'éteignirent. La seule source de lumière venait à présent du feu qui continuait de brûler dans la cheminée. Le professeur Trelawney se pencha et tira de sous son fauteuil un modèle miniature du système solaire enfermé dans un dôme de verre. L'objet était magnifique. Suspendu dans les airs, les 9 planètes et leurs lunes scintillaient sous l'éclat d'un soleil flamboyant. Harry regarda paresseusement le professeur montrer l'angle extraordinaire que Mars formait avec Neptune. Les vapeurs entêtantes l'enveloppaient et la brise continuait de lui caresser doucement le visage. Il entendit le faible bourdonnement d'un insecte, quelque part, derrière le rideau. Puis, peu à peu, il sentit ses paupières s'alourdir. Il chevauchait un hibou grand-duc qui volait dans le ciel d'un bleu clair vers une vieille maison couverte de lierre dressée au sommet d'une colline. Le hibou descendait peu à peu vers le sol et Harry sentait le vent lui rafraîchir agréablement le visage. Enfin, ils atteignaient une fenêtre cassée à l'étage de la maison et le hibou s'y engouffrait. Il volait à présent le long d'un couloir obscur, en direction d'une pièce située à son extrémité. Lorsqu'ils entraient dans la pièce, elle était plongée dans la pénombre, ses fenêtres condamnées par des planches. Harry n'était plus sur le dos du hibou. Il le regardait volter dans la pièce en direction d'un fauteuil qui lui tournait le dos. À côté du fauteuil, il voyait remuer sur le sol 2 silhouettes sombres. L'une des silhouettes était celle d'un énorme serpent, l'autre,
était celle d'un homme. Un petit homme, chauve, avec des yeux larmoyants et un nez pointu. Affalé sur le tapis, devant la cheminée, il sanglotait, la respiration sifflante.
« Tu as de la chance, Codver !»
disait une voix effrayante qui s'élevait du fauteuil sur lequel le hibou venait d'atterrir.
« Tu as vraiment beaucoup de chance. Ton idiotie n'a pas réussi à tout cacher. Ah, il est mort. »
Oh, « maître !»
haletait l'homme recroquevillé par terre.
« Maître, je suis tellement heureux, mais tellement, tellement désolé. Nadjini,
disait la voix glacée.
« Toi, en revanche, tu n'as pas de chance. Finalement, je ne vais pas te donner Codver à manger, mais ça ne fait rien. Non, non, ça ne fait rien. Il reste toujours Harry Potter. »
Le serpent sifflait. Harry le voyait darder sa langue fourchue.
« Et maintenant, Codver, il est temps de te donner un petit avertissement pour te rappeler que je ne te laisserai plus la moindre erreur.
« Maître, non, je vous en supplie !»
L'extrémité d'une baguette magique émergea soudain du fauteuil et se pointa sur Codver.
« Antolorise ça !»
Codver se mettait alors à hurler. Hurler comme si chacun de ses nerfs était en feu. Ses cris transperçaient les tympans de Harry qui sentait sa cicatrice au front redevenir douloureuse. Lui aussi criait, criait si fort que Voldemort allait sûrement l'entendre, s'apercevoir de sa présence. « Harry, Harry !» Harry ouvrit les yeux, les mains plaquées sur son front. Il était étendu par terre dans la classe du professeur Trelawney. Sa cicatrice lui faisait tellement mal qu'il en avait les larmes aux yeux. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un rêve. La douleur était bien réelle. Les autres élèves l'entouraient et Ron, agenouillé près de lui, paraissait terrifié. « Tu te sens bien ? » demanda-t-il. « Évidemment pas !» lança le professeur Trelawney, l'air surexcité. Harry voyait briller ses grands yeux qui le regardaient fixement.
« Mais que s'est-il passé, Potter ? Une prémonition ? Une apparition ? Qu'est-ce que vous avez vu ?»«
Rien !» mentit Harry. « Rien !» Il se redressa. Le corps parcouru de tremblements, machinalement, il regarda autour de lui, scrutant la pénombre de la classe. La voix de Voldemort lui avait paru si proche.
« Vous aviez les mains crispées sur votre cicatrice, » dit le professeur Trelawney. « Vous vous rouliez par terre en vous tenant le front. Oh, nous allons examiner cela de près, Potter. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. »
Harry leva les yeux vers elle. « Je crois que je ferais bien d'aller à l'infirmerie, dit-il. J'ai mal à la tête. »«
Mon cher, votre clairvoyance a très certainement été stimulée par les extraordinaires vibrations de cette pièce. Ah oui, oui, je le sens. Ah, si vous partez maintenant, vous risquez de perdre une occasion unique de voir plus loin que vous n'aurez jamais fait. »«
Je ne veux rien voir d'autre qu'un remède contre le mal de tête !» l'interrompit Harry. Il se releva et ses camarades décontenancés s'écartèrent pour libérer le passage. « À tout à l'heure, » murmura-t-il à Ron. Il prit son sac et se dirigea vers la trappe, sans un regard au professeur Trelawney qui paraissait frustré, comme si on venait de lui refuser un plaisir rare. Mais lorsqu'Harry eut descendu l'échelle, il ne prit pas la direction de l'infirmerie, où il n'avait jamais eu l'intention de se rendre. Sirius lui avait dit ce qu'il devait faire si sa cicatrice recommençait à lui faire mal et il s'apprêtait à suivre son conseil, aller voir directement Dumbledore dans son bureau. Il parcourut les couloirs en repensant à son rêve. Il lui avait semblé aussi réel que celui qui l'avait réveillé à Private Drive. Il passa tous les détails en revue pour bien les graver dans sa mémoire. Il avait entendu Voldemort accuser Codver d'avoir commis une erreur. Mais le hibou qui avait atterri sur le fauteuil était porteur de bonnes nouvelles. L'erreur avait été réparée, quelqu'un était mort et donc Codver n'allait pas être livré au serpent. C'était lui, Harry, qui lui servirait de repas. Harry était passé, sans la remarquer, devant la gargouille qui gardait l'entrée du bureau de Dumbledore. Il cligna des yeux comme s'il venait de se réveiller, jeta un regard derrière lui et revint sur ses pas. Puis il se rappela qu'il ne connaissait toujours pas le mot de passe. « Sorbet citron, risqua-t-il. » La gargouille ne bougea pas. « Très bien, » dit Harry en la regardant dans les yeux. « Bonbon à la poire ? Non ? Baguette réglisse ? Fils Whisbees ? Bulle baveuse, dragée surprise de Bertie Crochu? Non. Non, c'est vrai, il n'aime pas ça. Tu voudrais pas t'ouvrir, tout simplement? Il faut absolument que je le voie, c'est urgent. La gargouille resta immobile. Harry lui donna un coup de pied qui eut pour seul effet de provoquer une douleur fulgurante dans son gros orteil.
« Choco-grenouille »
s'écria-t-il furieux en sautant à cloche-pied.
« Plume en sucre, ni de cafard !»
La gargouille s'anima soudain et s'écarta en faisant glisser le mur derrière elle. Harry cligna des yeux.
« Ni de cafard ? »
répéta-t-il stupéfait.
« Disais ça pour rire ?»
Il se glissa par l'ouverture et monta sur la première marche d'un escalier en colimaçon qui se mit à tourner lentement sur lui-même pour l'amener en douceur devant une grande porte de chêne avec un heurtoir en cuivre. Harry entendit des voix derrière la porte. Il s'avança et hésita, tendant l'oreille.
« Dumbledore, j'ai bien peur de ne pas avoir le rapport entre les deux. Je le vois même pas du tout. »
Il reconnut la voix de Cornelius Fudge, le ministre de la magie.
« Ludo dit que Bertha est parfaitement capable de se perdre toute seule. J'admets que nous aurions dû la retrouver à l'heure qu'il est, mais nous n'avons pas la preuve pour autant qu'il se soit passé quelque chose de louche, Dumbledore. Pas la moindre preuve. Voilà. Comment sa disparition pourrait-elle être liée à celle de Barty Crompton ?»«
À votre avis, qu'est-ce qui a pu arriver à Barty Crompton ?»
grogna la voix de Maugrey.
« Je vois toute possibilité, Alastor, »
répondit Fudge.
Ou bien Crompton a fini par perdre la tête, ce qui n'aurait rien de tentant, vous en conviendrez lorsqu'on connaît son histoire personnelle, et s'est mis à errer au hasard.
Dans ce cas, il a erré au pas de course, Cornelius,
fit remarquer Dumbledore d'une voix très calme.
Reprit Fudge d'un ton embarrassé. Je préfère réserver mon jugement jusqu'à ce que j'ai vu l'endroit où on l'a trouvé. Vous m'avez dit que c'était à proximité du carrosse de Beaubaton? « Dumbledore, vous savez qui est cette femme ?»«
Je la considère comme une directrice d'école très compétente et une excellente danseuse, »
répondit Dumbledore d'une voix égale.
« Dumbledore, voyons !» s'exclama Fudge avec colère. « Vous ne croyez pas que vous avez un préjugé favorable à son égard à cause de Hagrid ?»«
Ben, vous savez, ils ne sont pas tous inoffensifs. »« Si tant est qu'on puisse qualifier Hagrid d'inoffensif, compte tenu de son obsession pour les monstres. »«
Je ne soupçonne pas plus, Madame Maxime, que Hagrid !»
dit Dumbledore du même ton paisible.
« Et je n'exclus pas que ce soit vous qui ayez des préjugés, Cornelius. »«
Est-ce que nous pourrions mettre un terme à cette conversation ?» grogna Maugrey.
« Oui, c'est ça. Descendons dans le parc, » dit Fudge avec impatience.
« Il ne s'agit pas de ça, » reprit Maugrey. « C'est simplement parce que Potter veut vous voir, Dumbledore. Il attend devant la porte. »